t'inganni, se pensi che gli anni non andrà a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un grand plaisir de vous imaginer les unes et les autres à l'écoute des passages. Pourtant, je dois vous dire que c'est assez troublant de préparer une nouvelle émission sans avoir pu échanger avec vous sur les précédentes. Continuez sans avoir une idée précise de vos éprouvés, parce que entrer et résider dans ces drôles d'endroits que sont les passages, ça fait vivre les préoccupations quotidiennes de façon assez peu ordinaire. Si bien que souvent, on a le sentiment d'être bizarre, d'être incompris. Incompris de ceux qui ont du mal à survivre, mais surtout de ceux qui vivent leur survie sans se confronter à l'existence. Alors, même si régulièrement l'infantile qui me traverse me fait douter de la pertinence à poursuivre, ce sont toujours de belles rencontres qui m'invitent à remettre sur le métier l'ouvrage à tisser dans les trames du métissage. C'est pour cela que je suis heureux d'être au studio Gisèle Halimi de la radio Esprit Occitanie, en présence de Léo à la technique et de mon invité, Ludovic Courty, que j'ai grand plaisir à accueillir et qui, je suis sûr, va vous surprendre par son parcours de vie. Bonjour Ludovic.
Bonjour Bertrand.
Alors Ludovic, le mieux est que je te laisse te présenter aux auditrices et aux auditeurs, en précisant toutefois que nous venons de croiser nos routes aujourd'hui. Et si nous avons croisé nos routes, c'est suite à la demande du cinéma Utopia de Tournefeuille, qui propose que nous animions ensemble un débat qui aura lieu le mardi 23 avril à 20h, après la projection en avant-première du film « Un jeune chaman », premier long-métrage d'une jeune cinéaste mongole. Ce film, qui a déjà reçu de nombreuses récompenses, permet d'aborder la question « Qu'est-ce que le pouvoir chamanique face à la modernité ?» Qui est Ludovic Courty ?
Alors, Ludovic Courty, c'est un chaman. Je vais m'occuper de la partie chaman pour la journée, comme pour le débat, à la suite de notre séance de ciné.
D'accord. Et donc, si tu as été appelé à animer cette soirée débat à Utopia, pour quelle raison as-tu été appelé à participer à ce débat ?
À ma grande surprise, j'ai été contacté, je pense, car j'ai été initié au chamanisme en Mongolie par une chamane mongole du nom Deng Tuya.
Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant ce parcours initiatique et comment en es-tu arrivé à te faire initier ? D'abord, peut-être précise-nous qu'est-ce qui s'est passé quand tu es allé en Mongolie et de quand ça date hein ?
Alors, c'est assez récent. Mon initiation en Mongolie a eu lieu en juin 2023. Donc c'est vraiment tout récent pour moi, mais il y a eu tout un parcours juste avant, enfin que c'est un parcours de vie, je dirais même.
Concernant le moment que tu as vécu en Mongolie, tu me disais que tu avais d'abord rencontré la chamane en France hein, et que c'est à la suite de cette rencontre en France, parce que tu avais déjà pour ton propre cheminement une pratique chamanique sans avoir reçu véritablement une initiation, que cette rencontre a fait qu'elle t'a invité avec d'autres personnes en Mongolie. Et tu me racontais un peu la manière dont tu as vécu ces 3 semaines que tu as passées en Mongolie, pour que les auditrices et les auditeurs réalisent un peu quel type d'initiation, toi, par rapport aux autres personnes, tu as été amené à vivre.
Alors, j'ai vécu une initiation qui était et à la fois intense et à la fois limpide. C'est-à-dire que j'ai 12 ans de pratique chamanique avant de faire l'initiation. Donc, je rencontre effectivement en octobre 2022 Enk Tuya en France. Et à la suite, on va dire, de divination, de cérémonie, de divination chamanique, dans laquelle la chamane va incorporer un de ses esprits ancêtres, c'est-à-dire qu'on n'est plus en face de la personne, on est en face de son esprit ancêtre auquel on pose des questions. Et son esprit ancêtre, j'ai fini par lui demander pour confirmation par rapport à mon activité, est-ce que je suis chamane ? Et elle me répond, mais oui, bien sûr, mais c'est blanc comme du lait, ton histoire. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne me dis pas de venir en Mongolie ? Elle me fait, mais parce que tu choisis, tout va bien pour toi. Alors je lui réponds, je te choisis toi. Et me voilà invité en Mongolie à pratiquer 3 semaines de chamanisme traditionnel mongol avec tous ses élèves qui étaient là à l'occasion des cérémonies du solstice.
Donc ce que tu nous fais comprendre, Ludovic, c'est qu'en fait... La capacité d'être en communication avec le monde des esprits, tu l'as éprouvé très tôt dans ta propre histoire et il a fallu que tu ailles de toi-même à cette rencontre-là et que lorsque tu rencontres la chamane de Mongolie, tu es déjà en fait chamane et elle te reconnaît comme chamane. Et c'est ça qui va t'aider récemment à assumer de façon plus légitime ce que tu ressens depuis longtemps.
Exactement, Bertrand. Il est nécessaire que, du coup, je vous raconte un petit peu mon parcours, et ça depuis que je suis né, car mon enseignante Enk Tuya nous précise bien qu'on est chaman, on ne le devient pas, même si après il convient de pratiquer pour le devenir pleinement, en pleine conscience. Je suis né comme cela, mais je suis né comme cela en France, dans une famille, on va dire, tout ce qu'il y a de plus classique, mais dans lequel le chamanisme n'existe pas. Le chamanisme ne fait pas partie de nos modes de vie, ne fait pas partie de notre culture, en tout cas n'en fait plus partie. Donc oui, j'ai toujours eu ces connexions avec les esprits, avec l'invisible, et surtout ce ressenti avec la nature, mais je ne comprenais pas ce que je vivais. Pour moi, je vivais ça de mon côté, je pensais que c'était un peu pour tout le monde pareil, finalement. Donc j'ai vécu une enfance, je dirais toute l'école primaire, comme un enfant normal. J'étais heureux, enfant unique, avec des parents aimants, qui pourvoyaient mes besoins, et j'étais très bien. Et je vivais mon truc de mon côté. Et ça a commencé à devenir un petit peu plus compliqué quand je suis rentré au collège et qu'on est un peu plus confronté à des standards par rapport à l'extérieur. Et l'image d'homme, comment on se construit en tant qu'homme. Je suis né dans la Champagne, à Épernay, et c'est quand même une région où... les standards d'hommes sont assez virils, je dirais, et je ne correspondais pas trop à cette...
virilité.
À cette virilité, à ces standards. Donc, l'extrasensibilité est plutôt vue comme une faiblesse. Mmh. Donc, j'étais un peu rangé dans la catégorie des faibles de la classe. Donc, pour moi, le collège n'a pas été... une période très réjouissante où j'ai compris même récemment que j'étais plus en survie plutôt qu'en train de vivre ma vie. Je survivais.
Et alors, comment, après ce collège douloureux, as-tu petit à petit pu entrer dans cette intériorité où tu as compris qu'il fallait que tu ailles à la rencontre de ce qui était à l'intérieur de toi pour libérer finalement les énergies de ton existence, devenir toi-même? Quelles ont été les rencontres qui t'ont permis de faire ce passage, si je puis dire, de l'enfance que tu nous décris comme finalement relativement agréable, des parents aimants, et ce qui pour moi est assez important en tant que médecin, c'est au moment de la puberté, hein, au moment du collège, au moment où émergent en nous aussi toutes les énergies de la libido, de la sexualité. On le verra très bien d'ailleurs dans le film que l'on commentera ensemble, hein, Un jeune chaman, à quel point la problématique de la puberté, de devenir un homme quand on est un garçon, comme devenir une femme quand on est une fille, n'est pas si simple que ça, et comment on est enfermé effectivement dans des modèles dans lesquels on ne se retrouve pas. Quelles ont été à la fin de ta scolarité les rencontres qui t'ont permis petit à petit d'ouvrir en toi ton existence?
Alors, ça n'a pas été à la fin de la scolarité, ça a été pendant l'été. Depuis que je suis enfant, je partais en vacances à la montagne ou parfois à la mer, mais je partais en vacances avec mes grands-parents pendant 2 mois. Et là, c'était 2 mois qui étaient complètement différents. 2 mois pendant lesquels je vivais et pendant lesquels j'étais dans la nature, dans la joie. En fait, c'était surtout que je n'étais pas dans un système scolaire. Je pense que je ne correspondais pas au système scolaire, ou plutôt, je devrais dire, le système scolaire ne me correspondait pas. Et donc, je vivais pendant ces 2 mois-là à la montagne, pleinement ma vie. Si bien que quand j'ai eu 17 ans, que j'ai fini le lycée, j'ai décidé de partir m'installer à la montagne, et j'ai fait ça en vivant des saisons d'été et les saisons d'hiver. Montagne, océan, et j'ai fait beaucoup de sports de glisse, ce qui m'a permis un peu de servir de soupape de décompression pour libérer un peu toute cette énergie qui circulait pas en moi là. Et mais à l'époque, je n'avais pas vraiment idée du chaman que j'étais. Mmh. J'étais attiré par les écrits de Carlos Castaneda. Mmh. Et donc j'ai fait un peu ma vie comme cela. Et mais quand même, un jour, j'entends une petite voix, et une sensation en moi qui me dit qu'il faut que tu partes. Il faut que tu partes parce que tu ne trouveras pas là où tu es, qui tu es. Et donc, je suis parti à Toulouse. Voilà, je suis parti à Toulouse. Et là, j'ai rencontré le shiatsu. Voilà, et j'ai commencé, en fait, par le shiatsu, et pour moi c'était absolument formidable de pouvoir s'apporter du bienfait, s'apporter de la guérison juste par les mains.
Tu peux nous préciser un peu ce qu'est le shiatsu?
Alors le shiatsu, c'est une technique japonaise, on va dire, d'acupressure sur les points d'acupuncture et les méridiens, oui. Et d'étirement, dans lequel on va harmoniser tout le système énergétique, mmh, voilà, du corps humain, ce qui a énormément de bienfaits sur la santé et aussi à terme préventif.
Et tu faisais ça pour te soigner ou tu as fait ça pour être initié et être toi-même adepte de pratiquer sur des personnes qui te le demandaient? Est-ce que tu en as fait une profession?
Oui, j'en ai fait une profession.
D'accord.
En fait, j'ai déjà fait ça pour moi-même. Mmh. Et ensuite, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais finalement, c'était une étape, voilà, pour arriver à autre chose.
D'accord. Quel a été le prochain passage ensuite?
Le prochain passage ensuite, je me suis intéressé à des choses un peu plus subtiles, la géobiologie et les lieux sacrés. Je me suis intéressé aux lieux sacrés, à la structure vibratoire des lieux, mmh, leur fonction de rituel, et tout ce qu'on pouvait y vivre en termes de bien-être dans les lieux, ce qui est relié à la connexion à la nature.
Et lorsque tu t'es mis à explorer les espaces et les lieux, là aussi, tu as pu bénéficier de rencontres ou ça a été de façon tout à fait autodidacte?
Oui, bien sûr, j'ai bénéficié de rencontres. J'ai rencontré un guérisseur traditionnel qui m'a enseigné, on va dire, sur le tas. Ça a toujours été un peu non conventionnel, c'est-à-dire que c'était pas un stage, c'était une rencontre et je suivais...
Une transmission.
Oui, une transmission. Oui. Mm-hmm. Ça a commencé comme cela.
D'accord. Mm-hmm. Et à quel moment tu vas donc entrer un peu plus dans ce que tu m'as appelé une activité chamanique, d'abord à l'intérieur de toi, à partir de ces espaces vibratoires où avaient lieu donc... des rituels, soit dans le passé ou peut-être encore réactualisés par des personnes.
Alors c'est pareil, là ça fait partie du chemin de vie, donc je vais rentrer un peu dans mon intimité. À l'époque, donc ma mère tombe gravement malade et moi je remonte dans ma région d'origine, la Champagne-Ardenne à Épernay, et pour soutenir mes parents avec mon ancienne compagne. Et en fait, inconsciemment, je me retrouvais confronté à la maladie de ma mère et à tout ce que j'avais fui dans mon passé. Et ça a été d'une violence absolument extraordinaire. Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment cherché à régler ça autrement que par moi-même. Mmh. Et j'ai trouvé un refuge dans la nature. C'est-à-dire que pour survivre, encore une fois, je me réfugiais dans la nature. Et là, c'est là que j'ai commencé à découvrir des perceptions plus intérieures qui faisaient écho au bien-être dans lequel je me ressentais dans la nature. C'est-à-dire que je pouvais aller en forêt, je n'étais pas seul. Pour moi, j'étais avec mes amis dans la forêt, ma famille, quoi.
Des présences intérieures.
Oui, rien que les arbres.
Oui, c'est ça. Mmh. Les esprits de la forêt, qui sont très fréquents dans les présences chamaniques, les esprits du monde végétal comme les esprits du monde animal. Mais je pense effectivement que les énergies que l'on trouve dans la nature sont tout à fait importantes. Et puis, à un moment où tu me disais que tu étais parti en Suisse.
Alors, je ne suis pas parti en Suisse, mais j'ai suivi l'enseignement de Laurent Guélit en Suisse. Et c'est donc à cette époque de la maladie de ma mère où je croise sur Internet l'annonce d'un stage. Et là, je sens qu'il faut que j'aille suivre ce stage. C'est ainsi que j'ai pu commencer la pratique chamanique de manière concrète. Voilà, je suis allé suivre un stage de chamanisme dans lequel je me suis porté volontaire pour faire un exercice chamanique, c'est-à-dire qu'on était assez nombreux, à peu près 25 personnes. Et à un moment, il fallait qu'une personne se désigne, donc on fait un exercice commun et il faut un poste un peu plus... délicat. Et ma main s'est levée toute seule et je suis allé à ce poste-là et en fait, tout a bien fonctionné. Et quand j'ai raconté ensuite ce qui s'est passé, il y a des gens qui m'ont regardé avec la lueur dans les yeux. Ah, mais tu as décrit ce que j'ai vécu. Ah, mais moi aussi. Et là, je me suis dit, mais Ludovic, là, il est en train de se passer quelque chose. Je suis en train de faire quelque chose. Il marche, je suis en train d'arriver à faire quelque chose dans ma vie qui me parle. Mmh. Et j'étais en train de trouver ma voie. Et là, c'était assez formidable. Donc, j'ai eu envie de pratiquer, de continuer à pratiquer. J'ai pratiqué jusqu'à maintenant.
Quand on a préparé cette émission, tu m'as raconté un voyage intérieur dans un moment de transe, je crois, durant ton passage avec ce passeur que tu as rencontré. Est-ce que tu peux, pour les auditrices et les auditeurs, raconter ce qui t'est arrivé? Parce que ça donne aussi à notre rencontre tout à fait surprenante pour moi, qui suis médecin, thérapeute, et qui avait, bien sûr, avec mon ouvrage et mon travail sur Néandertal. Donc, tu peux nous raconter ce que tu m'as raconté tout à l'heure?
Oui, avec grand plaisir. Donc, au cours d'un stage avec Laurent Huguelit, on nous fait faire un exercice qui on va chamaniser pendant une heure. C'est-à-dire que pendant une heure, on va faire du tambour avec quelque chose qui nous couvre un peu le regard pour qu'on soit rentré en état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'on modifie notre activité cérébrale, la fréquence d'onde. Mmh. Et donc, je fais ce voyage. Et le but de ce voyage, c'était un peu de retrouver nos origines chamaniques. Voilà, donc je mettais le but en tête. Je fais du tambour pendant un certain temps. Il se passe tout un tas de choses. Mais à la fin, j'étais en état modifié de conscience assez intense. Et là, je me retrouve littéralement dans une scène, c'est-à-dire que ce n'est pas une image, je suis dans la scène, les pieds dans l'eau, dans un lac, dans un paysage assez minéral, avec en face de moi un être qui me regarde et que je regarde. Et on se demande l'un l'autre, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Et moi, me dire dans mon esprit... Ah, je suis en face de mon ancêtre de Néandertal, c'est mon ancêtre qui est là. Et on s'est regardé, les yeux dans les yeux, l'un et l'autre, complètement éberlués, moi, autant que lui. Et ça a été absolument fantastique comme expérience, et j'ai beaucoup souri, du coup, quand j'avais vu le travail que tu as fait.
Sur la crotte de Bruniquel et sur ma recherche sur les processus d'humanisation il y a 176 000 ans, lorsque une communauté de Néandertaliens construisent deux cercles dans une grotte à Bruniquel. Alors moi, ça me touche d'autant plus que, comme je te le disais aussi, plus je travaille sur nos mondes intérieurs, plus je me rends compte à quel point l'animisme est une croyance importante, hein, la croyance dans les esprits qui nous habitent, qui peuvent être les esprits de nos ancêtres, bien sûr. Et dans ton vécu, tu fais bien référence d'ailleurs à tes grands-parents, hein, chez qui tu vas l'été, qui vont t'initier à la montagne. Et puis derrière tes grands-parents, il y a tes arrière-grands-parents, et derrière tes arrière-grands-parents, etc., etc. Alors je trouve intéressant que dans ton voyage qui remonte aussi loin que possible dans un état modifié de conscience, tu ailles jusqu'à l'ancêtre d'une humanité qui a disparu. Comme si, dans ton voyage, c'était la rencontre de Sapiens avec Néandertal, puisque c'est une rencontre qui interroge énormément d'anthropologues, de paléontologues, puisque, a priori, Néandertal a disparu et qu'il n'y a plus que du Sapiens et qu'une seule humanité sur notre petite planète actuellement. Je propose qu'on fasse une petite pause et qu'on écoute une musique que tu nous as apportée d'un rituel avec la guimbarde, qui est aussi un instrument très important dans les vibrations, hein, et qui est aussi utilisé d'ailleurs dans le film Un jeune chaman.
Thank you.
Alors merci Ludovic de nous avoir fait partager cette histoire de vie qui t'a amené après cette légitimité que tu reçois dans ton passage par la Mongolie à pouvoir aujourd'hui assumer finalement ce que tu as ressenti depuis longtemps, parce que prévoyant de parler avec toi, en préparation aussi du débat que nous aurons à Utopia, les questions que je me posais, auxquelles tu as répondu, c'était comment et dans quel contexte a eu lieu ton initiation. Moi, j'ai trouvé intéressant que tu puisses dire que justement, par rapport à d'autres personnes venant de France qui ont été en Mongolie en même temps que toi, ils n'ont pas suivi les mêmes rituels d'initiation. Toi, c'était blanc comme du lait, elle a dit.
Alors, ça a été les mêmes rituels, seulement on ne les a peut-être pas vécus pareil, parce que moi, j'ai de l'expérience chamanique. Voilà, donc, il y a des gens qui ont une moyenne expérience, d'autres une grande et d'autres pas du tout. Et en fait, il est important quand on est chaman, on est intermédiaire, c'est-à-dire que je suis intermédiaire entre le monde subtil, le monde des esprits et le monde physique. Et pour faire cela, il est important d'avoir de l'expérience et de surtout bien connaître. Alors là, j'introduis cette notion d'esprit allié, d'esprit tutélaire ou d'esprit ancêtre qui nous accompagne. Et chez moi, toute cette pratique était quand même en place.
Alors justement, on a appuyé un petit peu notre rencontre autour aussi d'ouvrages d'anthropologues et d'ethnopsychiatres hein, pour essayer de croiser nos propres cheminements face aux questions existentielles auxquelles nous sommes tous confrontés. Bertrand Hell, qui est professeur d'anthropologie, confirme dans son livre « Possession et chamanisme » que ses observations de chercheurs dans différents pays, que le chamanisme et la possession n'appartiennent pas au passé, bien au contraire, que les communautés traditionnelles confient aux chamans le pouvoir d'être ce qu'il appelle les maîtres du désordre. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de chacun de nous, même si nous voudrions en permanence que les choses soient bien ordonnées, bien clarifiées, en réalité, nous sommes régulièrement, pour de multiples raisons, confrontés à un désordre intérieur. Et dans les sociétés traditionnelles, c'est souvent le chaman qui va être en capacité de remettre de l'ordre à la fois à l'intérieur d'une personne, qui est un désordre aussi qui touche la communauté. Alors que dans nos sociétés occidentales, on a tendance à considérer que c'est à l'individu, au sujet seul, qu'on impose de s'occuper de son désordre, que ce soit de son plein gré ou sous contrainte. Et souvent, du coup, dans nos sociétés, s'occuper de son désordre, ben c'est devoir aller voir un psychiatre ou un psychothérapeute. Ou... Alors le numéro 27 de la nouvelle revue d'ethnopsychiatrie, qui est consacré au actes du premier colloque international qui a eu lieu en 1994, hein, s'intitulait « Pouvoir de sorcier, pouvoir de médecin, question de théorie ». Le rédacteur en chef de cette nouvelle revue est une personne extrêmement importante dans l'ethnopsychiatrie puisqu'il s'agit de Toby Nathan et il y aborde la question de thérapie scientifique et thérapie sauvage et témoigne des bienfaits que peuvent apporter ce qu'il appelle les thérapies sauvages, bien évidemment, entre guillemets. Alors, je le cite. Voilà ce qu'il dit. La psychothérapie qu'on appelle scientifique, je ne parle évidemment pas de sa vérité, seulement de sa méthode, quelle que soit par ailleurs son obédience théorique, freudienne, anti-freudienne, néo-freudienne, kleinienne, fanatique ou crypto-lacanienne, que sais-je. Ce type de psychothérapie, disais-je, contient toujours une seule prémisse. Elle est claire, explicite. L'humain est seul. Il est seul dans l'univers, donc seul face à la science, par conséquent seul aussi face à l'État. C'est par cette unique formule que je pourrais résumer les professions de foi des psychothérapies savantes que je connais. Tous les systèmes théoriques ayant vu le jour depuis la seconde moitié du XIXe siècle en découlent, faisant de la folie une sorte de maladie individuelle. Dans les sociétés à univers multiples, l'humain n'est pas seul. Et la folie d'un membre consiste à postuler qu'un esprit s'est emparé de lui. De ce fait, et en toute logique, il devient indispensable de faire appel au connaisseur d'esprit, maître du secret, maître du savoir initiatique, pour corriger le désordre de cette possession d'un esprit qui est là pour signaler qu'il y a quelque chose à résoudre pour retrouver l'harmonie. D'ailleurs, Bruno Latour, qui est toujours aussi percutant depuis son constat « Jamais nous n'avons été modernes », intervient aussi à ce colloque à propos des certains objets chevelus qui sont le titre de son intervention pour dire l'inutilité de séparer croyance et raison. Tu évoquais tout à l'heure la question des esprits. Que penses-tu de cette question de croyance, représentation et du rapport aux esprits ?
Alors, c'est une question essentielle quand on pratique le chamanisme, parce que ben, tout est basé sur les esprits avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que moi, Ludovic, je ne suis rien sans mes esprits. Alors, je sais que le concept, pour nous, occidentaux, est un peu difficile pour certaines personnes à appréhender. J'aimerais vous lire, si vous le voulez bien, quelques paroles du livre de Brigitte Piezac.
Qui est Brigitte Piezac ? Tu peux nous préciser ?
Brigitte Piezac est une chamane française initiée en Mongolie par Nketouya, la même enseignante que moi, que j'ai rencontrée et qui était une amie, voilà, qui a écrit de nombreux livres sur le chamanisme. Je vous lis quelques mots. Ongod, le mot est beau et percutant. C'est celui que l'on utilise dans le chamanisme sibérien pour désigner les esprits. J'aime ce mot pour sa puissance d'invocation. Il claque comme un appel, permettant d'aller à la rencontre des présences qui nous entourent dans le monde de l'invisible. Les ongodes se présentent à nous toujours à bon escient, pour nous signifier leur reconnaissance et leur aide. Ils sont de toute nature, esprits en devenir ou pas encore nés, animaux de pouvoir ou présences angéliques. Ils font preuve de fidélité envers celui qui peut les entendre, les voir et les faire venir. Le chaman doit savoir faire venir à lui les ongodes, mais il doit aussi savoir les faire repartir pour qu'ils puissent retrouver le repos après être intervenu.
Oui, c'est un beau passage parce que je pense qu'il met bien en lumière ce rapport, je dirais, de quasi horizontalité avec les esprits pour les laisser advenir et les permettre aussi de repartir.
C'est ça. Et j'aimerais faire une précision qui est très importante, qui est un peu personnelle dans ma pratique. Il est important, je pense, pour nous, chamans de 2024, aussi de dépasser un peu tous ces concepts dualistes et toute la dichotomie entre le bien et le mal, les bons esprits, les mauvais esprits. En fait, tout cela, ce sont vraiment des vues intérieures. Et pour moi, il n'y a pas de mauvais esprits ou de bons esprits. C'est un peu tout fait partie du même ciel. Mais effectivement, si dans ma vie quotidienne, je joue avec mes peurs, je joue avec ma colère, ou je joue avec le pouvoir, et peut-être que je vais rencontrer un esprit un peu taquin qui va venir mettre en lumière tout ce que je suis en train de faire pour pouvoir rectifier mon expérience.
Alors ça m'intéresse, Ludovic, parce que tu es en train de dire la même chose que ce que j'éprouve en tant que pédopsychiatre hein, et de mon travail autour de l'infantile et du parental. Finalement, ton esprit vient jouer le rôle d'un parent qui vient te dire que tu exagères, que tu joues d'une façon non respectueuse avec les énergies, tes propres énergies ou celles des autres ou celles du monde animal, etc. Donc c'est aussi un peu un garde-fou, finalement, hein, dans la manière dont il vient créer chez toi un moment de désordre qui va te servir de clignotant.
C'est ça, tout à fait.
Quand on est occidentaux, on se pose des tas de questions quand on entend parler de chamanisme. On se pose par exemple la question, les adeptes des cultes qui participent aux rituels chamaniques, eux-mêmes croient-ils aux esprits ? De la même façon d'ailleurs que dans la Grèce antique, on pouvait se demander, est-ce que les Grecs croyaient réellement qu'il y avait des dieux sur le mont Olympe ? D'ailleurs, l'historien Paul Veyne, qui est aussi une pointure dans son domaine, puisqu'il était professeur honoraire au Collège de France, se demande dans son essai sur l'imagination constituante, c'est intéressant ça, imagination constituante, c'est-à-dire une imagination qui est capable de constituer de la représentation, il se pose la question, les Grecs ont-ils cru à leur mythe ? Et donc il semble nécessaire d'introduire la complexité de la psyché dans tout ce qui fait anthropologie, c'est-à-dire de mettre de l'anthropologie psychologique, pas seulement sociologique et pas seulement au niveau de l'évolution des humains, et ne pas confondre justement croyance et représentation. En évoquant la mythologie, la représentation peut être entendue au sens de mise en scène. Et ça aussi, je trouve que c'est très important parce que la représentation peut être uniquement mentale. On peut se représenter des images dans notre tête. Hein. Il suffit de fermer les yeux et on peut voir des images. Alors quand on est dans un état modifié de conscience, on peut même retrouver notre ancêtre néandertalien. Mais pour beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à la représentation mentale de la psyché, ils ont besoin de représentations en scène avec le corps qui est l'équivalent d'une mise en jeu d'un théâtre, où le corps fait partie prenante de la représentation, un théâtre vécu où les corps prennent toutes les places qui leur reviennent. Mais pour être mis en scène devant un public, il faut un metteur en scène. Et cela concerne très directement le problème de l'initiation. Il faut qu'un metteur en scène ait d'abord été sur scène pour pouvoir ensuite prendre du recul, se mettre à la place du spectateur tout en étant à la place de l'acteur. C'est ça le rôle du metteur en scène, et tu l'as très bien dit. En fait, nous ne sommes que des passeurs. Et c'est pour ça que nous sommes dans l'émission des passages. Alors Bertrand L., il écrit que devenir chaman n'est pas l'aboutissement d'un désir. Bien au contraire, c'est d'abord la traversée d'épreuves. Des épreuves qui conduisent justement petit à petit sur le chemin de l'initiation. Il me semble que c'est bien ce dont tu nous as parlé.
Oui, c'est bien ça. Je dirais même qu'on est chaman. Je l'ai déjà dit, on est chaman, on ne le devient pas.
Il faut accepter la révélation, d'assumer finalement cette différence que tu as ressentie, puisque d'emblée, tu t'es ressenti différent des autres enfants.
Oui, d'emblée, moi, je ne me suis jamais retrouvé dans les standards que l'on me proposait. Je ne me suis jamais retrouvé dans la reconnaissance que l'on m'offrait. Mmh. Voilà, je disais non, ça, c'est pas moi. Donc, il m'a fallu aller chercher tout cela moi-même et pas en fait à l'extérieur. C'est que quand j'ai compris que cette affirmation devait venir de l'intérieur, c'est-à-dire oui, je m'affirme moi, Ludovic, et oui, je suis chaman, je suis comme cela et c'est cela ma normalité et votre normalité n'est pas la mienne et je vous accepte comme vous êtes, car je m'accepte comme je suis. C'est à partir du moment où j'ai passé ce stade que tout est allé bien dans ma vie.
Alors là aussi, pour que les auditrices et les auditeurs puissent trouver aussi leur propre positionnement par rapport à tout ce qu'on raconte, qui est quand même un petit peu étonnant, hein, comme je le disais en introduction, ce sont des parcours surprenants. J'avais envie d'aborder un parcours initiatique qui relève de l'infantile et du parental tel que j'essaye de le promouvoir depuis le début de cette émission des passages qui ont maintenant un an. Et je vous propose de réfléchir ensemble sur le parcours initiatique d'un auteur, compositeur, interprète, William Scheller. Il est né en 1946 de la rencontre entre un soldat américain et une Parisienne dont il porte civilement le nom de jeune fille. Élevant son fils dans une monoparentalité, quand il a 3 ans, elle l'emmène aux États-Unis et s'installe avec son nouvel amant qui est lui aussi américain. Parmi les amis de la famille recomposée, il y a de grands noms du jazz comme Miles Davis ou Kenny Clarke. Mais cela n'empêche pas le petit William de se sentir seul. Alors à 7 ans, il rentre en France et il est confié à sa grand-mère maternelle qui est ouvreuse au Théâtre des Champs-Élysées et à son grand-père qui est chef décorateur à l'Opéra Garnier. L'hypersensibilité du garçon, ce que tu évoquais aussi, ton extra-sensibilité, qu'aujourd'hui on qualifierait de neuro-atypie, l'amène à penser sa destinée dès l'âge de 10 ans, composer de la musique. Alors, à l'adolescence, il est confronté à un traité d'harmonie rédigé par un ancien disciple de Gabriel Fauré. N'y comprenant rien, il va le rencontrer en allant directement sonner à la porte de son appartement parisien. La relation entre l'infantile et le parental opère. À la demande de ce monsieur, sa mère l'autorise à arrêter sa scolarité en seconde pour être initié à la musique sérielle et être préparé au concours du Prix de Rome. Et le chemin du jeune William croise la musique des Beatles. Et il abandonne tout pour aller à la rencontre du rock avec un groupe niçois qui en plus ont choisi comme nom, un nom américain, les worst, c'est-à-dire les pires. Il faut dire que leurs concerts sont galères assortis de cachets misérables. Son initiateur à la fonction parentale désespéré lui dit « Mais avec le bagage que vous avez, vous n'allez tout de même pas faire le saltimbanque. » Alors depuis, William court et il se sent toujours tout seul. Sa neuro-atypie fait qu'il ne comprend pas le langage de ceux qui sont dans le train du bonheur. On dira que son histoire est bizarre, mais il ne peut plus s'arrêter vu qu'il n'y a plus de nom sur les gares. Il ira jusqu'au bout du chemin et quand ça sera la nuit noire, il sera bien.
La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage, et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Si je ne te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Histoire que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard, et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage, un matin. Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimerait peut-être. Trop je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Trop je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. S'endorment aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre, je sais, mais je peux pas m'arrêter. Y'a plus de nom sur les gars. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul.
Alors Ludovic, on va aborder actuellement quelle est ta pratique, qu'est-ce que tu proposes. Voilà, je crois que tu as fait un site sur les moteurs de recherche où tu offres une assez grande diversité de démarches. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Oui Bertrand, j'ai fait un site. Donc mon site c'est www.lecrijuste.com et vous pouvez trouver déjà des explications sur ce que je fais, sur ce qu'est le chamanisme. Et ensuite, tout un calendrier avec les activités que je propose. Donc, dans mes activités, cela concerne l'apprentissage du chamanisme. Donc, un chamanisme simple, c'est-à-dire qu'on rentre en état modifié de conscience à l'aide du tambour. Et j'apprends à faire des actes chamaniques, qui ont aussi, pour ceux qui sentent l'appel, vocation à faire du soin, c'est-à-dire aller apporter une aide à l'autre. Alors je précise, on n'est pas dans du soin médical, bien sûr, on est dans de l'acte chamanique, c'est on va essayer d'apporter une aide, d'apporter une réparation sur un plan invisible pour aider.
par rapport à ça, effectivement, le mot soin est un mot important. Et là aussi, quand on s'occupe d'enfants, quand on est pédiatre, psychopédiatre, pédopsychiatre, le mot soin ne signifie pas forcément maladie. Le mot soin, quand on prend soin d'un enfant, ça veut dire qu'on est présent, qu'on s'occupe de lui. Et donc, je pense que le soin dont tu nous parles, hein, est aussi cet acte de présence, d'attention que l'on porte à l'autre, hein, et qui, comme tu le laisses entendre aussi, nécessite qu'on prenne aussi soin de sa propre intériorité. Hein, donc, c'est un soin qui est toujours dans une sorte de passage, hein, d'aller-retour entre prendre soin de l'autre pour prendre soin de soi et prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Hein.
Oui, prendre soin de soi, c'est vraiment une condition sine qua non au fait d'aller apporter une aide à l'autre. C'est parce que je suis moi-même passé dans un passage de prendre soin de moi, de comprendre ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je vivais et par quoi je suis passé pour aller mieux, pour être moi-même. C'est parce que j'ai vécu ça que je peux amener de l'aide à l'autre. Mais l'aide que j'amène est toujours aider l'autre à être plus lui-même, à faire par lui-même, à se comprendre lui-même. Et je le fais justement avec l'aide de mes esprits tutélaires, par des actes chamaniques. Et ce n'est pas vraiment en chamanisme, ce n'est pas ma propre volonté, ce n'est pas moi qui décide véritablement de ce que je vais apporter à l'autre, ce sont mes esprits tutélaires.
Dans tes propositions, il y a aussi, je trouvais ça intéressant et important, parce que là aussi, il y a des recoupements avec ce qu'on propose aujourd'hui en Occident, dans nos pays européens, qui est l'apport de la méditation. Tu organises des stages de méditation, anapana et vipassana. Ce sont des termes que je ne connaissais pas, et donc tu m'as expliqué que l'anapana concerne une méditation centrée autour du souffle, hein, centrée autour de éprouver toute la circulation de l'air, hein, à l'intérieur de son corps, et que vipassana, tu me disais que c'était une méditation plus globale, que tu m'as même appelé un scanner corporel où le mental se met à l'écoute donc des différentes parties de notre corps. Alors ça m'a intéressé parce que c'est exactement ce que on propose dans les thérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles, où on propose ce qu'on appelle des méditations en pleine conscience, où on aide une personne à prendre le temps de se libérer un peu de toutes les stimulations sensorielles extérieures pour pouvoir recentrer ses radars sensoriels sur sa propre intériorité et pas forcément une intériorité mentale d'un monde, d'un au-delà, d'abord un recentrage sur le corps que notre esprit habite avec ses muscles, sa peau, ses articulations, son squelette, ses viscères. Et je trouvais intéressant de voir que finalement, on reprend aussi les mêmes supports, hein, pour prendre soin de soi.
Oui, effectivement, les pratiques de la méditation, anapana, vipassana, je pratique depuis longtemps la méditation et j'ai appris tout cela au fur et à mesure des années et aussi dans une retraite de 10 jours, que c'est assez connu, hein, la retraite vipassana. Et j'ai décidé de transmettre aussi cela comme une préparation, parce que je trouve qu'il y a une complémentarité absolument essentielle dans ma pratique chamanique. Et cette complémentarité, effectivement, c'est le revenir à soi, c'est-à-dire qu'à un moment, je vais arrêter d'aller rentrer en état modifié de conscience, je vais arrêter d'aller parler à des esprits, je vais revenir à moi, je vais le faire par ma respiration dans un premier temps, et par mon corps. Et le fait de faire cela, ça me permet aussi de me déconditionner. Et le déconditionnement, il fondamentale.
Bien sûr. Alors j'ai vu aussi que dans tes propositions, il y a une proposition qui m'a un peu interpellé parce que ça résonnait justement avec les cercles de la grotte de Bruniquel. C'est intitulé « Le parcours sacré avec les cercles de pierre ». Tu peux nous en dire quelque chose ?
Oui, alors c'est un parcours dans les Pyrénées. Donc il y a certains lieux où l'on trouve des cercles de pierre donc qui datent du néolithique. Là, c'est un peu plus récent que
Bruniquel.
Les histoires de nos ancêtres. Mais enfin, et dans ces parcours, j'y ai vécu moi-même certaines expériences. Donc c'est des lieux où on peut se connecter justement à l'énergie de la terre de manière très forte. C'est un peu comme si on était si on naviguait dans le système d'acupuncture de méridien de la planète Terre et qu'on va pouvoir se positionner un peu là-dessus et vivre des expériences. Et tout naturellement, j'ai eu envie de guider des personnes, faire ces expériences-là.
D'accord. Alors, pour les auditrices et les auditeurs, parce que je trouve que c'est toujours important quand on a des demandes de se faire guider, de se faire accompagner, et bien de savoir que tout ça a un coût et que le coût que pratique Ludovic me paraît tout à fait raisonnable puisque le tarif d'une journée avec Ludovic est de 75 euros et les stages allant d'une journée à 3 jours, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Donc ça me paraît effectivement tout à fait raisonnable. Ceci étant, chacun a ses propres cheminements et sa propre capacité à faire avec les énergies qui sont à l'intérieur de lui. Et quand on évoquait tout à l'heure le parcours de William Scheller, pour lui la musique a été certainement sa pratique chamanique. Pour quand on voit les paroles, c'est vraiment toutes ces musiques, alors le carnet à spirale, enfin bon, je pense que certains auditrices et auditeurs connaissent William Scheller. Et je voulais aussi associer dans la même démarche d'expression dans l'écriture et la mise en musique, un autre auteur-compositeur qui est un peu un contemporain de William Scheller, puisqu'il est né en 1944. Il s'agit d'Yves Simon. Yves Simon est aussi un écrivain qui est auteur de La dérive des sentiments, qui est un roman qui a été couronné du prix Médicis en 91 et qui a eu un grand succès puisqu'il a été traduit en 18 langues. Et Yves Simon nous explique la nécessité de se raconter. Et il a une très belle chanson dans son album qu'il a intitulé « Autoportrait » en 1993. Et le titre de sa chanson, c'est « Raconte-toi ».
Tu as peur des gens qui passent dans ta vie ou sur le trottoir d'en face. Tu as besoin qu'ils te regardent et pourtant tu restes là sur tes gardes. Raconte-toi. Tu écris au visage que tu as vu en quadrichromie à la une des revues. Tu leur dis je te regarde, est-ce que tu me vois dans le brouillard de ma ville où j'ai si froid. Raconte-toi. Raconte-toi. Envoie toutes sortes de messages aux inconnus et lucioles de passage. Prends le parti du risque et des erreurs. Le silence est toujours complice ou trompeur. Raconte-toi. Raconte-toi. Prends des feuilles 21-27, un stylo, une caméra Super 8, un magnéto. Regarde à l'intérieur de tes rêves et dans les journaux. Toute la folie du monde est dans ton cerveau. Raconte-toi. 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 Raconte-toi.
Alors Yves Simon nous dit « N'ayons plus peur des gens sur le trottoir d'en face. Envoyons toutes sortes de messages aux inconnus de passage. Prenons le parti du risque et des erreurs. Ne pas regarder à l'intérieur des rêves et dans les journaux, c'est vouloir se cacher de la folie qui est pourtant dans le cerveau de chacun de nous. Et c'est de cette folie dont s'occupe le pouvoir chamanique. Le tien Ludovic, ou celui que j'ai été amené à construire dans ma rencontre avec les enfants, avec les parents, avec les enseignants, dans le cadre de mon activité en centre médico-psychologique. Et d'une façon générale, c'est le pouvoir chamanique du parental sur l'infantile quand on devient adulte. Alors merci Ludovic d'être passé.
Merci Bertrand pour m'avoir ouvert cet espace. Cet espace pour avoir pu exprimer tout ça, je suis bien content et je voudrais remercier tout le monde ici au studio. Je voudrais remercier Radio Esprit Occitanie et spécialement aussi mes parents qui sont aujourd'hui par là, mais je voudrais les remercier. Je voudrais remercier ma compagne Laura qui est chamane elle aussi et qui me soutient énormément dans tout ce parcours. Je voudrais remercier Brigitte Piedzak, qui est aujourd'hui aussi disparue, qui a été un élément important. Sa compagne Anne Vito, qui est bientôt, elle aussi, en conférence à l'occasion de la sortie du film Un jeune chaman le 16 mai à Toulouse.
À l'American Cosmographe. Voilà, vous aurez aussi, pour ceux qui ne pourront pas venir au Tournefeuille, la possibilité d'un débat sur Un jeune chaman à l'American Cosmographe.
Et j'aimerais une dernière parole remercier mon enseignante Nketuya et remercier tous les chamans mongols qui m'ont accompagné là-bas car j'ai pu ressentir depuis que j'ai vécu cette initiation cette sensation d'appartenir à une famille et à une lignée qui est restée vivante et de pouvoir recevoir cet enseignement, recevoir cette transmission et à mon tour permettre cette transmission aussi pour les générations d'après.
Voilà, pour les auditrices et les auditeurs, vous voyez que c'est des belles rencontres comme ce qu'on a essayé de témoigner aujourd'hui qui m'encourage à poursuivre cette émission des passages. Pouvoir croiser nos approches d'écoute, nos propositions d'accompagnement à tous ceux qui sont en questionnement sur le sens de leur vie, témoigne de l'intérêt commun que nous portons Ludovic, moi, les thérapeutes, les chamans, au monde invisible, invisible avec les yeux, mais perceptible avec le cœur. Alors ensemble, restons fidèles au passage qui fait que le chemin se fait en marchant. Et je vous dis à très vite.
Inganni, se pensi che gli anni non andan a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che parsi gradita, è breve gioire, bisogna morire, non val medicina. Non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non valion un sperate, minarie bravate, che calia l'ardire, bisogna morire. Dottrina che giova, parola non trova, che blati l'ardire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non si trova modo di sciogliersi con oro, non vale il fuggire, bisogna morire. Con un statuto non vale l'astuto, sto colpo schernire, bisogna morire, bisogna